CDRC, le podcast. Le podcast.
Bonjour, je suis Florian Lavenu, manager général de la Convention des réseaux commerciaux. La CDRC est le premier événement hybride dédié aux équipes dirigeantes des enseignes. Alors si vous faites partie d'un réseau commercial et que vous travaillez dans le service développement, RH, juridique, financier, marketing ou immobilier, téléchargez dès maintenant votre pass CDRC sur le site cdrc.paris. Le pass vous donne accès à la plateforme digitale CDRC Connect et à une entrée à l'événement physique qui aura lieu le 17 juin 2021 à Paris.
CDRC, le podcast. Le podcast.
Écoutez le commerce s'organiser.
Et pour ce troisième épisode, nous avons le plaisir de recevoir Véronique Discourbuau, déléguée générale de la Fédération française de la franchise. On rappelle que la franchise est une des formes principales de commerce organisé en France. La franchise a généré en 2019, selon la FFF, 68 milliards d'euros et pèse plus de 750 000 emplois directs et indirects en France. Véronique Discourbuau, bonjour.
Bonjour.
Véronique, vous êtes déléguée générale de la FFF depuis à peu près un an maintenant, on va dire. Mais dites-moi, une année comme celle-ci, ça en vaut 10 en termes d'expérience, non?
Oui, c'est bien possible, oui. Mais ma carrière a été jalonnée de crises, en fait. Je pense que c'est ce qui m'a construit aussi, ce qui m'a construite. Donc voilà, je crois qu'on apprend plus vite. Je crois que ça permet aussi de se mettre beaucoup plus vite dans le bain. Et je pense que ça permet aussi de construire une équipe, de souder une équipe. Contre l'adversité, on se sent plus soudé. Donc tout se fait plus vite. Il y a aussi des avantages aux crises et ça, c'est un des avantages.
Justement, Véronique, on rappelle que vous avez remplacé Chantal Zimmer, qui était restée quand même 35 ans à la tête de cette maison. Comment s'est passée votre prise de fonction et la passation?
Alors, j'ai eu la chance d'être épaulée par Chantal Zimmer pendant 3 mois avant qu'elle ne s'en aille, ce qui est bien après pour établir une succession de 35 ans. Il y avait pas mal de choses à apprendre, de l'écrit, du dit, du non-dit. Donc ça a été une grande chance, cette transition. Et puis, quand Chantal est partie, les choses se sont succédées très rapidement et nous avons effectivement eu affaire au Covid. Donc les choses ont été, je dirais, construites sur l'historique, mais aussi sur l'utilité de réagir vite, le besoin de reconstruire des nouvelles formes de connexion avec nos membres, de les épauler d'une manière un peu différente. Donc, s'en sont suivies de grandes modifications dans notre manière de travailler avec l'équipe et dans notre manière de correspondre avec nos membres et avec, je dirais, l'ensemble de l'écosystème, avec les experts de la franchise, etc. Donc ça a été de la construction aussi en réaction qui s'est fait depuis cette crise.
On va parler de vous. Vous êtes dans le secteur du commerce et de la distribution depuis le début de votre carrière, plus particulièrement au sein du groupe Carrefour. Vous avez commencé chez Promodes, puis Supermarché Champion, ensuite Logidis, pour terminer la direction RSE de Carrefour. 25 ans donc au sein de cet immense acteur de la distribution en France. Qu'est-ce que vous retenez de toutes ces années dans cette grande maison?
Un grand bonheur, une grande chance d'avoir évolué dans le commerce. Moi, je suis économiste de formation et c'était pas forcément quelque chose qui m'était prédestiné, mais j'ai vraiment aimé ce parcours parce que c'est un parcours qui est proche de la vie, proche de la réalité, proche des gens et qu'il permet à des jeunes et à des moins jeunes de pouvoir évoluer en fonction de leur ambition, de l'investissement personnel qu'ils ont envie de faire. Moi, j'ai eu la chance de changer radicalement de poste quasiment tous les 4 ans, sauf sur le dernier poste, puisque j'y suis restée 8 ans, mais là, on construisait la RSE et sur la dimension d'un groupe comme Carrefour sur 34 pays, être en charge de l'environnement, du social et de tous les critères environnementaux et sociaux d'un groupe comme ça, ça nécessitait bien 8 ans. Donc voilà, je pense que c'est vraiment une grande chance. Moi, j'ai adoré, je ne me suis pas ennuyée une seule minute de ma vie professionnelle.
Justement, la RSE sur cette dernière expérience, on sent aussi que c'est quelque chose qui a marqué votre parcours, puisque quand on regarde, vous êtes engagé pour un commerce plus sain, un commerce équitable. Vous avez fait partie du bureau Max Avelar France et vous avez été membre directeur au sein de Global Food Safety Initiative. Comment avez-vous commencé à vous engager pour le good au sens large? Qu'est-ce qui vous a motivé?
Je crois définitivement que depuis le début de ma carrière, je me suis engagée sur des valeurs que je portais. Et que je partageais. Que ce soit au tout début, puisque quand j'ai démarré dans la grande distribution, vous l'avez souligné, j'ai démarré dans un groupe familial Promodet. Et l'ambition, c'était quand même de donner accès au plus grand nombre à des produits de consommation de qualité à des prix accessibles à tous. Et pour moi, ça parle. C'est des choses qui parlaient vraiment très, très fort. Je sais que la distribution n'a pas qu'une image positive auprès de chacun. Néanmoins, ça reste quelque chose de fondamentalement vrai. Je crois que si on regarde à travers les âges, le rôle de la distribution a quand même été d'apporter des produits de qualité organoleptique, mais aussi sanitaire, de faire remonter le niveau sanitaire de l'ensemble des produits et de permettre à la population de se nourrir. Bien sûr, avec aujourd'hui des choses que l'on voit sur l'obésité. Enfin, bon, il y a aussi des éléments de controverse, je ne les nie pas. Mais à la base, fondamentalement, je partageais les valeurs. Donc oui, c'est pas par hasard que je me suis retrouvée chez Max Avelar et ça n'est pas par hasard que je suis à la Fédération française de la franchise parce que je pense concrètement que ce modèle économique est un modèle très actuel et très porteur de valeur. C'est quand même un modèle qui est installé sur le transfert de savoir-faire et le partage de la valeur. Aujourd'hui, on a quand même beaucoup de concepts économiques qui ont tendance à cristalliser et ramener l'ensemble du capital dans les mêmes mains. La franchise, c'est le contraire. C'est effectivement donner la possibilité à un plus grand nombre d'entrepreneurs de devenir entrepreneurs indépendants et de créer leur propre entreprise. Et ça me parle. C'est pour ça que j'adhère profondément aux valeurs et au fonctionnement de cette fédération qui est, je le rappelle, une fédération un peu sélective quand même, puisqu'en fait, pour devenir adhérent, il faut passer une commission d'admission qui veille à ce que l'ensemble des documents soient clairs, honnêtes, transparents, que les contrats de franchise soient eux aussi honnêtes et transparents, de manière à assurer une certaine équité entre le franchiseur et le franchisé. Mmh. Et cette fédération accueille d'ailleurs en son board des franchiseurs et des franchisés. C'est vraiment la fédération de la franchise, des franchiseurs et des franchisés. Donc je me retrouve dans mes valeurs, c'est un peu une continuité. Vous l'avez aussi souligné, à une période importante de ma carrière, j'ai œuvré pour les magasins champions, qui étaient en grande partie des magasins franchisés aussi. Donc, c'est quelque chose que je connaissais et c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup plu. Parce que travailler avec des franchisés, c'est travailler avec des entrepreneurs qui se mettent vraiment au service de leurs clients, qui ont un vrai projet d'entreprise, mais aussi un projet de vie. Ce sont des gens qui vont vivre leur entreprise localement, dans la région où ils sont installés, sur du long terme. Vous pouvez construire avec eux. Et c'est vrai que les projets RSE étaient souvent très enthousiasmants lorsqu'ils étaient menés par des franchisés. Un franchisé, il n'a pas le même ROI qu'un directeur salarié qui, lui, sait qu'il va être promu dans 3 ou 4 ans, qu'il changera de région et qui est intéressé. Voilà, il est de passage, il est très intéressé et c'est louable par tenir un compte d'exploitation positif, etc. Alors qu'un franchisé va lui manager sur du plus long terme. Il va être capable de faire des investissements. Que ce soit sur des panneaux solaires, que ce soit sur des choses qui demandent un temps plus long. C'est ça l'intérêt, en fait, de travailler sur la franchise et avec des franchisés.
Si on revient justement à la Fédération française de la franchise que vous dirigez aujourd'hui, je rappelle que le rôle de la FFF, c'est donc de promouvoir le modèle de la franchise, de le défendre auprès des pouvoirs publics et d'accompagner les franchiseurs dans leur développement. Mais il est important de le dire que la FFF, c'est ce que vous venez de souligner, c'est également un service de médiation entre consommateurs et les réseaux et de médiation entre les franchiseurs et les franchisés, mais c'est aussi de la formation. C'est vraiment une maison qui propose une gamme complète de services et d'accompagnement autour de la franchise.
Absolument. Tout ce qui peut être fait pour favoriser en fait l'essor des réseaux est mis en place. Et tous les exemples que vous avez cités sont vrais et nous sommes toujours en devenir et en création de nouveaux services. Donc le vrai travail de la fédération, c'est d'être à l'écoute de son environnement et à l'écoute du besoin des réseaux et de s'y adapter. D'être bien sûr réactif mais aussi proactif. C'est pour ça qu'on a mis en place par exemple pendant la crise très très vite et nous étions parmi les premiers à faire des webinaires d'information pour permettre en fait à l'ensemble des réseaux de connaître en temps réel les mesures susceptibles de les aider, de les animer avec nos experts. Nous avons la chance d'avoir un collège des experts à la fédération constitué d'avocats, constitué d'experts comptables, mais aussi de géomarketeurs, de communicants, d'experts en digital. Et toutes ces personnes se sont mises à disposition des réseaux pour animer des webinaires avec nous et aider ces réseaux tantôt à construire leur plan de trésorerie, tantôt à les aider à comprendre comment aller chercher des PGE. Voilà, c'est ça la fonction d'une fédération. C'est d'être au service en fait de ces réseaux, de ces adhérents, de les aider en période de crise et de les aider aussi en période de développement évidemment.
Combien de réseaux sont adhérents aujourd'hui à la FFF ?
Alors on a à peu près 170 entre 170 et 180 réseaux. Ce sont des réseaux de toute taille et ça c'est important aussi. On a des très gros réseaux, des plus petits. On a des réseaux naissants. On accompagne aussi des nouveaux franchiseurs et ça aussi c'est important parce que la franchise s'adapte au marché. C'est peut-être ce qui lui apporte d'ailleurs sa résilience, c'est que ses concepts sont en permanente évolution et puis que nous avons sans cesse de nouveaux concepts qui se créent. Et le rôle de la fédération c'est aussi d'accompagner ces nouveaux franchiseurs de manière à ce que ils ancrent déjà dans leur gène et dans leurs habitudes les bons comportements et les bonnes méthodes des franchiseurs.
Vous jouez aussi un rôle à l'international. Alors, on sait que la crise a forcément mis un vrai stop à ce développement-là, mais est-ce que vous accompagnez les réseaux à se développer à l'international, mais aussi à accueillir les réseaux étrangers qui souhaiteraient s'implanter en France ?
Oui, absolument. Et la fédération a été pionnière là-dedans. Elle a co-fondé la fédération européenne. Elle a été très motrice sur la création du WFC, qui est en fait l'association mondiale des fédérations de la franchise. Donc, la fédération française a vraiment un rôle très très important sur la partie internationale. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la fermeture des frontières, on est un petit peu frustrés. Néanmoins, les réseaux continuent à préparer leurs projets. Il y a effectivement un stop momentané. C'est aussi un stop qui permet à chacun de se repositionner, d'analyser les contours de leur expansion. Et je suis certaine que ça redémarrera. Le salon de la franchise est d'ailleurs un excellent outil pour ça et c'est pour ça que c'est un salon international puisqu'en fait il accueille à peu près une quinzaine de pourcents des exposants qui sont des exposants étrangers, y compris des exposants qui viennent des US, de l'Europe bien sûr, mais aussi de Chine, etc. Donc on voit bien que la franchise, c'est aussi l'international.
On va parler de la crise que nous sommes en train de tous traverser. Alors, question naïve peut-être, mais comment se portent les réseaux aujourd'hui face à cette crise sanitaire ? Certains secteurs mieux que d'autres, j'imagine. Quels sont vos ressentis, vos impressions ?
Alors, moi, je suis déjà admirative de la résilience, en fait, des réseaux. ce que j'évoquais avec vous tout à l'heure sur les valeurs, c'est quelque chose que je retrouve dans ces périodes difficiles. On a vu tout de suite beaucoup de réseaux retrouver ou reconstruire ou renforcer le dialogue très très fort avec leurs franchisés, apporter un soutien en fonction de leurs possibilités, bien sûr. Hein, il y a des réseaux qui ont pu assurer des aides financières, d'autres qui étaient un peu moins solides, qui ont apporté des aides différentes en termes de conseils, en termes d'accompagnement. Mais de manière générale, l'ensemble des réseaux se sont concentrés, se sont ressoudés et le dialogue s'est renforcé pendant cette période-là. Alors, je ne vais pas vous dire qu'il y aura aucune fermeture de magasins en franchise, c'est pas vrai.
Vous attendez à de nombreuses disparitions de réseaux quand même ?
Nombreuses, je ne pense pas, bien que je ne sache pas jusqu'à quand nous allons avoir à souffrir cette crise. Hein.
Ça va
dépendre de la durée. J'aurais tendance à dire que, de manière générale, nous aurons probablement moins de fermetures que n'en auront les commerçants isolés. Pour la raison que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'en fait, la solidarité, la collaboration s'est mise en place très très vite. Que très très vite, les premières mesures, le soutien, l'explication a été apporté à l'ensemble des franchisés qui ont pu, dès le début, aller mettre en place les mesures et aller chercher les aides auxquelles ils avaient droit. En fait, les commerçants ne se sont pas trouvés seuls et démunis face à la crise. Et ça, c'est très important parce qu'en fait, on voit bien que la casse se fait, notamment au début. Face à une crise, il faut savoir réagir et réagir vite. La pire des situations en temps de crise, c'est de rester dans l'attente. Et on a bien vu que très très vite, l'ensemble des réseaux s'est mis en marche pour faire un état des lieux, pour commencer à rebondir et pour planifier l'avenir. Et ça, c'est très important.
C'est vrai qu'on a senti que le commerce en réseau allait mieux résister. C'est peut-être un des enseignements positifs, c'est que la franchise et d'autres formes de commerce en réseau peuvent s'en sortir grandies de cette crise.
Oui, tout à fait. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait du mal à toucher du doigt. On l'imaginait. On va probablement, grâce, et on s'en serait bien passé, mais grâce à cette crise, pouvoir le commenter de manière sûre, avec des chiffres. Parce que cette réalité, effectivement, on n'espérait pas avoir à la vivre, mais on aura des chiffres.
Il y a une chose très importante, on vous a vu monter au créneau avec d'autres fédérations, mais c'est la thématique de l'immobilier, des loyers. Comment ça se passe actuellement pour les réseaux ? Est-ce qu'ils ont réussi à trouver la plupart du temps des arrangements avec les foncières ?
Alors, on vient de faire une petite enquête, malheureusement. On a environ 40% qui ont trouvé des solutions, et puis il reste 60% qui n'en ont pas trouvé. Alors, parmi les 60%, on en a la moitié qui est en négociation encore, et puis donc un gros tiers qui n'a aucune piste et aucune négociation. Donc, c'est très compliqué. Ça va être d'autant plus compliqué que le Covid, la crise n'a pas l'air de s'arrêter là.
Oui, on parle d'un reconfinement.
Ouais, si on n'adapte pas les coûts à la réalité des chiffres d'affaires, ça va être très compliqué.
On a la sensation que c'est vraiment le sujet central, c'est-à-dire que l'État a plutôt joué son rôle, là je partage avec vous, hein, mais l'État a plutôt joué son rôle en ce qui concerne le chômage partiel, le PGE, toutes ces choses-là, mais que les foncières n'ont pas été jusqu'au bout de ce qu'elles pouvaient faire.
Alors moi, je n'émettrai pas de jugement, je ne suis pas une professionnelle des foncières, je ne connais pas leur business case et je ne sais pas dans quelle situation financière elles se trouvent. Néanmoins, je pense que c'est un problème qui n'a pas trouvé sa solution ou qui, de toute façon, va demander à ce que nous retravaillions le sujet d'ici peu.
suite au prochain épisode. Il y aura sûrement des suites d'ailleurs de cette crise avec peut-être une adaptabilité des loyers en fonction des résultats commerciaux.
Oui, d'ailleurs, si vous regardez, on parlait tout à l'heure de l'international, il y a pas mal de pays qui ont commencé à légiférer ou à mettre en place certains accords, accords un peu forcés par les gouvernements.
Autre sujet, c'est le recrutement. Car la bonne santé des réseaux de franchise, c'est aussi de se développer grâce aux nouveaux franchisés. Alors vous qui êtes au contact des enseignes, est-ce que vous avez eu la sensation que tout s'était arrêté depuis mars 2020 en termes de recrutement ?
Alors non, bien au contraire, puisqu'en fait, l'Observatoire de la franchise, hein, qui est l'outil de Reed, nous permet de voir que par rapport à l'année dernière, sur une pareille époque, hein, du début de l'année jusqu'à maintenant, nous avons plus 11% de candidats à la franchise. Alors, ça c'est quand même assez intéressant.
Ouais.
Ça souligne plusieurs choses, hein, bien évidemment. Ça souligne l'inquiétude de certains salariés face à la situation de leurs entreprises et peut-être la volonté de se préparer à créer leur propre emploi. Mais ça souligne aussi quelque chose d'important qui s'est passé pendant le confinement. Je crois que les gens ont eu le temps de faire un 360, de se demander si vivre dans les grandes métropoles à un rythme parfois un peu fou valait la peine. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui reconsidèrent leur carrière sous cet angle-là, tout comme on voit que les grandes tendances de la RSE ont été renforcées. Je pense que tout ce qui touche à la vie personnelle, à l'équilibre vie privée, vie professionnelle, va retrouver tout son sens en ce moment. Et c'est là que la franchise est un outil très intéressant, puisqu'en fait, il permet à un grand nombre d'investisseurs de toute taille de trouver un moyen d'entreprendre et de créer son propre emploi, parfois juste de créer son propre emploi en faisant une petite franchise, que j'appellerais une petite franchise, parfois en créant des emplois additionnels si l'entreprise est plus importante. Mais c'est un moyen important de mobilité dans la carrière, de mobilité géographique aussi, en permettant à certains d'aller s'installer dans des régions dans lesquelles ils rêvaient vivre ou ils rêvaient de retourner. C'est intéressant de constater qu'un tiers des franchisés sont installés dans des villes de moins de 20 000 habitants.
Ouais. On a la sensation, on parlait tout à l'heure que le commerce en réseau pourrait sortir gagnant de cette crise, entre guillemets. On sent aussi que la proximité, c'est la grande gagnante de cette crise. On sent que les gens ont ce besoin de villes plus petites, que le centre-ville va mieux s'emporter.
Alors, il y a le commerce en franchise, mais il y a les services. Hein. On a une grosse proportion, en fait, de nos franchiseurs et franchisés qui sont des services, et notamment le service à la personne. Mais vous avez raison, hein, tout ce qui touche à la proximité, à l'humain, en période de crise, on retourne à nos basiques et on essaie de revenir à ce qui fait sens. Et c'est pas par hasard que ce qui fait sens, c'est la proximité, c'est les relations avec autrui, c'est son environnement familial, c'est son environnement géographique, etc. Voilà.
Justement, on parlait du recrutement. Vous venez là de communiquer ces derniers jours les nouvelles dates du Salon Franchise Expo Paris qui aura lieu du 26 au 29 septembre 2021 à Paris, porte de Versailles. Ça signifie quand même qu'il n'y aura eu aucun événement pendant un an et demi. Quand on connaît l'importance de votre salon dans la stratégie de développement des franchiseurs, comment vous allez gérer cela ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ?
Vous avez raison, c'est une énorme frustration et ça va être très très long. Et d'autant plus que moi c'était mon premier salon et que je piaffais à l'idée d'y aller. Donc ça va être très très long. Alors tout d'abord, on a en ce moment même, hein, du 26 au 28, une plateforme, la plateforme mise en place par Reed, une plateforme online qui permet de mettre en relation les franchiseurs et les franchisés. De cette plateforme, on va tirer les enseignements. S'il faut reproduire ce genre de choses encore une ou deux fois dans l'année en attendant le salon, on le refera. Je pense que c'est essentiel qu'on puisse effectivement contribuer à cette mise en relation. Et vous l'avez souligné, le salon est quand même l'endroit très attendu par les exposants, mais aussi les futurs franchisés. Donc il va falloir qu'on trouve des solutions pour les mettre en relation.
Ouais, donc plutôt des solutions digitales en attendant de pouvoir tous se réunir physiquement.
Hélas, je pense que nous n'avons pas d'autre choix. Mais je dirais que la session 2021 sera tellement attendue qu'elle va être forcément formidable. Et on a le temps de s'y préparer. Donc on va vraiment le faire de manière, avec tout notre cœur et toutes nos idées.
En tout cas, on vous le souhaite et on sera également au rendez-vous. Alors, un dernier mot sur la CDRC, ce qui nous réunit aujourd'hui, la Convention des réseaux commerciaux. Dans cette période charnière pour le commerce, de notre côté, quand on a organisé cet événement, il nous semblait indispensable que le commerce organisé se rassemble pour réfléchir à son avenir. Donc moi, je voulais vous dire qu'on était très heureux de vous avoir en tant que partenaire institutionnel aux côtés de Procos et de la FCA. Qu'est-ce qui vous a plus rapidement dans ce projet de la Convention des réseaux commerciaux?
Je crois que c'est intéressant de toute façon d'allier nos forces. Nous sommes tous là pour contribuer à l'économie d'un pays. Il n'y a pas de choses qui doivent être exclusives. Je crois qu'on a tous notre place. Nous ne sommes ni en concurrence ni en lutte, et vous l'évoquiez tout à l'heure, nous avons lobbyé d'ailleurs ensemble lorsque nous avions des sujets conjoints. Je crois que c'est essentiel, quand nous avons des choses à défendre, que nous le fassions ensemble. Quand nous avons des choses à célébrer, qui nous rassemblent, que nous le fassions ensemble. En tout cas, c'est mon état d'esprit. Et voilà, donc nous sommes ravis d'être partenaires.
Merci beaucoup Véronique Discourbeau de nous avoir accordé ces minutes. Nous aurons le plaisir de vous retrouver lors de l'ouverture de la plateforme digitale CDRC Connect le 10 novembre prochain. Et bien sûr, le 17 juin 2021, physiquement au Palais Brongniart à Paris. Merci encore.
Merci, à bientôt.
CDRC, le podcast.
Écoutez le commerce s'organiser.